homme de peu, homme de paille et homme de l'aglo. Femme du monde, femme du demi-monde et même femme du tiers-monde. Troubadour turfiste, gaulliste crépusculaire, rappeur cancéreux. Oyez, ma belle parole, ce lutricine, votre doux ménestrel, s'en va vous conter les mille et une légendes de notre beau pays.
Solutricine rappelle comment les télérégionales se sont taillées la part du limon dans le paysage audiovisuel français, alors que son dynamisme impressionnant a été une grande source d'inspiration pour les grandes émissions nationales comme La tête entre les jambes.
La part du peuple, ce qui lui reste dans la société, est-elle à l'aune de son expression dans les médias ? S'interrogeait gravement le regretté Yves Saint-Laurent en regardant dans les années 90. Grâce à une antenne satellite ultra sophistiquée, les chaînes locales du Languedoc-Roussillon, entre deux conversations téléphoniques insipides, avec des mannequins au bord du suicide, qu'il appelait en PCV de deux continents différents. On pourrait aussi s'interroger sur la concurrence démentielle auquel se livrent les télévisions locales pour s'attirer du chat lent à la détente. Certaines émissions, quoi qu'on en dise, restent dans l'inconscient collectif. J'en veux pour preuve la réplique célèbre dans le film culte Les Bronzés, où Louis Rego, le géo-animateur du Club Med et auteur du sketch de la valise, indique qu'il va travailler grâce à un piston familial à Téléphilatélie. Cette émission phare de Télé Saint-Drézérie, très recherchée des amateurs, est apparue au grand jour grâce à cette tirade. Mais nous allons voir qu'il existe d'autres émissions d'apparat. S'il y a bien dans l'Hérault une source exceptionnelle d'imagination, c'est sa capacité à créer des émissions populaires. Il est vrai que les jeux à Moggio avec les taureaux et dans toute la Camargue sont un terrain propice. Lors d'une de mes anciennes chroniques, j'avais montré comment le grand Guy Lux, qui au départ était venu dans la région parce qu'il avait gagné un concours de mots croisés un week-end en Thalasso, au Gros du Roi, fit la découverte des nombreux jeux avec les mastodontes bicornes. Il s'en inspira pour sa fameuse émission Interville, alors qu'à Canal 34, on retransmettait déjà les affrontements et les équipes étaient la fierté des villes du coin. Au-delà des polémiques qui inspirent le mépris pour tous les aficionados de la télévision locale, écœurés par les tentatives de récupération des grandes chaînes nationales, qui ne se privent pas, en tenant juste à flot les finances de ces télés régionales, de pomper la sève créatrice, il est amusant de noter les similitudes avec des émissions qui ont marqué le pays. Actuellement, on constate un regroupement de l'offre régionale, le prix des droits télé sur le sport local ayant explosé. Une banale retransmission de croquet occitan coûte maintenant une fortune. Des sponsors comme Rolex renaclent à s'associer, l'offre culturelle donc logiquement baisse. Peut-être que le nouveau bouquet numérique, appelé l'abonnement Septimaniac, et poussé du coude par le Conseil Général, va permettre de faire redécoller le tout, car il y eut un âge d'or. Et pour s'en convaincre, je vais vous détailler quelques émissions phares, fameuses, voire faramineuses. La plus célèbre est sans doute La Grosse Galette. Cette émission était produite par Channel Europe Frontignan. Trois familles, complètement inconnues des services de police, issues de trois patelins différents, s'affrontent pour gagner La Grosse Galette. Comme tout le monde le sait, le Languedoc est frontalier avec l'Espagne, et notamment la Catalogne. Le jeu commence de la façon suivante. Les trois familles, munies de leur caravane, se retrouvent dans une grande usine de produits industriels de Barcelone, où une montagne de déchets de nature toxique les attendent. Le but du jeu est de ramener le plus de containers à risque en France en faisant des allers-retours sans se faire coincer par les douaniers. Pour marquer, les participants doivent aller à la Grande Motte remplir le plus possible les bunkers qu'ont fortifiés les Allemands sur les bords des plages pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est vrai que les Allemands nous ont laissé un paquet de bunkers à la Grande Motte. Je profite de cette petite parenthèse pour souligner comment les services de désinformation américains ont été opérationnels pendant la guerre. Car les Allemands se sont fait berner comme des schtroumpfs, enfin comme des bleus, quand on voit l'ampleur des travaux de défense qu'ils nous ont laissés sur les bras. De la mer, ces constructions, c'est vrai, font peur. D'ailleurs, jamais un émir douteux ou un riche armateur grec Bigam ne s'y est jamais arrêté, préférant bien sûr la discrète plage de sans trop de pèse. Surtout que finalement, le débarquement n'a pas eu lieu à la Grande Motte, mais au Cap d'Agde. Tout ceci reste encore gravé dans la mémoire collective. Je rappelle aux plus jeunes qu'il y eut quand même des dégâts. Les Marines, sur se fondre dans la population, fort nombreuses l'été, des naturistes, mais certains spécimens mâles furent appréhendés sur la plage par la population excitée. D'autres, et ceux parmi les plus aguerris, sautèrent sur des minous. D'après un document de la CIA, Il y eut pas mal de disparitions. Un nombre important de bérets verts n'arrivèrent pas à faire la jonction avec leurs unités. Enfin bref, cette émission filmée en direct était regardée par tous les gens de la région. Une famille très douée pour cette épreuve ramena plus de 17 tonnes de produits toxiques, mais sa performance ne fut pas homologuée, car elle disposait d'appui grâce à des cousins qui étaient des gens du voyage et avaient une connaissance assez pointue du mode de fonctionnement des gabelous. Ce divertissement populaire connut des taux d'audience mesurés par médiamétrie comme les plus importants enregistrés pour une émission régionale. Une plainte du préfet obligea malheureusement les producteurs de stopper l'émission. Comment ne pas oublier aussi la plus mythique, celle qui scotcha de Lodève à Limoux toutes les ménagères de moins et de plus de 50 ans. Cela s'appelait « La bourse ou la scie ». Cette émission, d'un point de vue sociologique, était très intéressante. On prenait donc des familles de gens plutôt portées sur les travaux manuels, dont la plupart des membres étaient au chômage, le but étant de gérer un portefeuille boursier comme un gestionnaire de placement, à l'aide de produits dérivés sophistiqués. C'était cette fois-là une volonté de la part des patrons de la télé de faire ce qu'on appelle, dans le jargon des communicants, une reblochonnade, c'est-à-dire de prendre toutes les parts de marché du monde audiovisuel languedocien, mais en plus d'attirer de nouveaux spectateurs, rendant donc l'ancien camembert congru et obsolète. Le studio de l'émission avait été transformé à grands frais en une salle de marché comme celle qu'on trouve dans les gros cabinets à la Bourse de Londres. Les familles disposaient donc, en temps réel, des informations sur les marchés internationaux et pouvaient passer des ordres immédiats. Les demandes n'étaient pas effectives, en revanche, les ordres étaient stockés dans les ordinateurs et l'on pouvait calculer les performances boursières. Il y avait 20 familles au départ, et la famille gagnante, celle qui gagnerait le plus en bourse, se verrait offrir une semaine gratuite pour toute la famille à Euro Disney dans le chalet rose de la Belle au Bois Dormant. Pour donner un repère, une famille était éliminée dès qu'elle faisait, en termes de performance, moins de 50% des résultats du team de Paris-Bas. En revanche, lorsqu'une famille était éliminée, une autre devait rentrer impérativement. En tout, 50 familles avaient été sélectionnées. Les deux premières semaines, toutes les familles arrivaient à faire un score honorable. Ils ne perdaient pas d'argent, mais n'obtenaient pas les résultats performants des traders aguerris de la puissante banque. Les Golden Boys leur donnaient des leçons avec un vocabulaire très technique. Et lorsqu'ils voyaient les mines dépitées qui n'y comprenaient rien, ils ne pouvaient s'empêcher de hurler de rire pendant le duplex à la fin des marchés. Bon enfant, l'animateur leur faisait aussi la leçon et leur conseillait l'argument qui est toujours le même depuis au moins 3 générations de boursicoteurs, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Lors de l'émission suivante, les familles avec leur bon sens paysan avaient su retirer leurs billes d'un warren japonais qui leur paraissait douteux. Bien qu'ils ne sachent pas distinguer un sushi d'une soupe miso, et les gars de Paris-Bas qui n'avaient pas vu venir le beans avaient pris un coup sur leur profit. Lors de leur échange en fin de journée, le chef des traders de Paris-Bas adorait citer une phrase d'un poète asiatique inconnu du lagard des Michus pour clore son analyse technique. Chose inimaginable, au bout d'un mois, les familles gagnaient plus d'argent que les professionnels. Ça posait un problème à la production, car les autres familles en attente voulaient jouer, mais comme personne n'avait perdu, les choses se compliquaient. Ils commençaient à rôder autour du studio comme une horde de chiens affamés. Les semaines s'écoulaient et les duplex provoquaient l'hilarité générale du public. Les Golden Boys avaient grossi et ne prenaient même plus la peine de se raser. Ils étaient rentrés dans une forme de dépression collective. Les familles, elles, commençaient à s'acheter des costumes et des tailleurs avec l'argent fictif qu'elles avaient l'impression d'avoir gagné. Il fallait voir Michel Estanque, ouvrier maçon à Montagnac, qui s'était mis au bouton de manchette fluo et dont les performances de son portefeuille étaient du double de la flopée de traders HEC masterisés à Harvard, leur lancer avec des petits yeux filous des proverbes du pays dans un délicieux occitan. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns. « Coubéol, mai, per, aubriol » qui veut dire « qui veut mai, per, avril » ou bien « un tauril dal, en mai, boule, en pumens bal » Une soupe à l'ail, plus elle bout, moins elle vaut. Il aimait conclure d'un « Lao taopi, c'est truffo de lulo », le pot se moque de la marmite. C'était pathétique. Certains traders s'étaient mis à l'occitan pour décoder Michel et Guy Clapiès, tous deux techniciens de surface au centre commercial Odysseum, et téléphonaient en douce, hors antenne, pour demander des conseils. Ils subissaient une pression inhumaine de leur chief executive manager, qui était devenu la risée de la profession. Au siège de la télé, à Satellit Béziers TV, on était plus qu'heureux car tout le monde suivait de très près l'affaire grotesque et l'audience, elle, avait explosé. Les familles, qui ne pouvaient toujours pas venir sur le plateau, étaient interviewées dans le Midi Libre. Et entre deux rancœurs sur la production qui les avait soi-disant lâchées, donnaient leur avis sur le dollar et le prix du baril de pétrole. Cependant, il y en avait un qui ne riait pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'était le sponsor. Imaginez, À chaque fois que l'émission s'apprêtait à passer à l'antenne, avec un taux d'audience record, une filiale de Paris-Bas, sur une musique classique, vous présentait, après avoir franchi une splendide porte en fer forgé d'un château prestigieux, une équipe de spécialistes en patrimoine que l'on pouvait joindre à l'aide d'un numéro vert afin qu'ils nous conseillent sur la gestion de notre épargne. À la fin de l'émission, on avait droit à la même ritournelle avec en plus un trombinoscope de clients multimillionnaires, asiatiques et arabes, dans de gros avions installés en première, cocktail à la mimine, qui souriaient comme des gamins en recommandant de faire comme eux, de placer des ronds dans la banque. Le problème, c'est qu'avec cette histoire, toute la mythologie de Toc de la finance s'était écroulée et les seuls gens qui appelaient sur la ligne de Paris-Bas, c'était des téléspectateurs écroulés de rire. Évidemment, le ministère des Finances demanda l'arrêt de cette émission maudite car elle portait un coup très sérieux à la crédibilité des établissements bancaires français. Ne voulant pas lâcher la poule aux œufs d'or, les producteurs de l'émission cherchèrent un sponsor parmi les banques anglaises et néerlandaises. La Barclays fut un temps intéressée, mais quand elle prit connaissance de la croissance du portefeuille des familles, lâcha immédiatement l'affaire. La belle histoire ne s'arrêta pas là car les familles organisèrent une tontine et réussirent à gagner suffisamment d'argent pour créer par la suite un fonds d'investissement sénévole dont je vous reparlerai dans une autre chronique. Donc pour conclure, je dirais que la télé régionale, si kitsch soit-elle, même si elle rencontre souvent des difficultés financières, reste un vivier idéal pour tenter de nouvelles idées qui, somme toute, sont plus riches de sens que le juste cri.